Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre chaîne de podcast Une alchimie de l'éveil. Je suis Keragir et aujourd'hui nous entamons un épisode circonstanciel pour accueillir la nouvelle année. Publié ni plus ni moins qu'un 31 décembre 2022, nous allons rester dans la même ligne que l'épisode antérieur et nous allons découvrir cette fête du nouvel an à travers une perspective complètement nouvelle, historique, mythologique, ancestrale, mais aussi énergétique et avant tout et surtout, ce qui nous tient à cœur dans cette chaîne pour aller au cœur de l'humain et de son potentiel, que nous apprend-elle pour grandir et donner le meilleur de nous. Chers amis, le but de cette chaîne est de diffuser au plus grand nombre et gratuitement des clés et des pépites pour la transformation et la croissance personnelle. Et peut-on avoir une meilleure époque que celle-ci pour se poser ce genre de questions? Nous croyons qu'il est possible de construire un monde meilleur et pour cela nous contribuons à éveiller la prise de conscience de l'immensité de notre potentiel, ceci en partageant des clés concrètes et applicables. Nous voulons apporter des contenus positifs, constructifs, pédagogiques, humains et responsables, servis avec pragmatisme et une approche pratique qui donne toute sa place au bon sens et à l'expérience vécue. Et ceci, en plus, avec le sourire. Car le moment est venu de réinventer notre humanité et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire. Cette chaîne de podcast fait partie d'un projet de plus grande ampleur au cœur de l'humain et de son potentiel. Elle est financée par divers partenaires, dont Unity, la communauté francophone pour grandir en conscience avec les plus grands experts internationaux du développement personnel, de l'éveil de conscience et de la spiritualité. Unity, des formations e-learning pour grandir en conscience. Et si vous avez envie de participer à cette aventure de la chaîne Une alchimie de l'éveil, n'hésitez pas à nous écrire à français, sans cédille sur le C, @unity, Y-O-U-N-I-T-Y.one. Ce sera pour nous un plaisir d'interagir avec vous. Nous répondons absolument à tous les emails. Alors, dites-nous ce que vous pensez de nos épisodes. Invitez-nous à creuser de nouvelles thématiques. Surprenez-nous, posez-nous des questions. Il se pourra peut-être que le prochain épisode soit ni plus ni moins qu'inspiré par vos soins. Alors, chers amis, je suis Keragir et aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons découvrir la fête du Nouvel An. Vous avez été très nombreux et nombreuses à nous écrire suite à l'épisode antérieur, qui était un épisode clin d'œil sur la fête de Noël, où j'ai partagé plein d'anecdotes, plein de petits détails et plein de découvertes absolument hors cadre qui m'ont, on va dire, apporté un sourire et en même temps une féerie différente de la fête de Noël. Ça m'a fait sourire. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire un épisode? Et en fin de compte, vous avez été très nombreux à nous écrire pour nous féliciter pour cet épisode et pour nous dire que vous avez passé un très beau moment. C'était le but de ce moment de l'époque, de se dire, bon, prenons ces dates de l'année avec légèreté, mais une légèreté pratique et qui sert à quelque chose. C'est-à-dire qui nous apprennent des choses et qui en même temps nous permettent d'aller chercher éventuellement certains trésors. Donc, comme vous nous avez écrit tellement nombreux pour nous dire merci pour cet épisode, eh bien, nous allons faire un nouvel épisode, en plus, exactement de la même façon, car la vie fait bien les choses. Eh bien, cette année, Noël et le jour de l'an, ça tombe un week-end, nous publions toujours nos épisodes un week-end, alors acte symbolique, dans quelques heures, je vais fêter le jour de l'an avec mes proches. Et donc, avant de le faire avec eux, j'avais envie de le faire avec vous. Ce sera notre petit moment partagé où nous allons découvrir le jour de l'an et la fête du Nouvel An à travers ses origines historiques, ses traditions, mais surtout, comme je disais en intro, ce qui nous intéresse dans cette chaîne, c'est aller au cœur de l'humain et de son potentiel, le faire en conscience. Alors nous allons aussi creuser ces enseignements séculaires que cette fête nous invite à intégrer pour une renaissance pleine de vie et de possibles. Et comme, bien sûr, il est devenu coutume, nous vous proposerons des lignes d'action concrètes pour passer de la réflexion à la mise en matière. Alors, commençons par un petit tour historique. Je découvre en fait en faisant ces recherches que les origines de la nouvelle année remontent bien loin, pratiquement aussi loin que la fête de Noël. Elle remonte ces festivités à l'époque de la Babylone antique. On a découvert dans des excavations archéologiques de la bibliothèque d'Ashburnipal, qui a été détruite en 612 avant Jésus-Christ, on a découvert jusqu'à 10 000 tablettes. Et dans l'une de ces tablettes, il est mentionné une fête nommée Akitubash, qui était un festival de 11 jours pour célébrer le printemps et qui commençait l'année au mois de mars. Ça se passait environ entre moins 3000 et moins 1000 avant Jésus-Christ. Nous sommes en l'époque de Babylone. Petit clin d'œil d'ailleurs, il y avait deux fêtes du jour de l'an à l'époque, car on célébrait chaque équinoxe. Mais avant ça, on remonte maintenant à moins 4000 ans, nous devons repartir chez les Égyptiens, et on apprend qu'il y avait, c'était encore plus des gros fêtards, ils avaient trois célébrations différentes du Nouvel An parce qu'ils avaient trois calendriers différents. Il y en avait un qui était le calendrier officiel avec sa fête du jour de l'an. Il y en avait un autre qui fêtait la renaissance d'Osiris avec sa fête de Nouvel An. Et ensuite, on fêtait aussi la renaissance de Sirius, une étoile qui disparaît pendant 70 jours et c'était son apparition qui fêtait l'arrivée du Nouvel An. Il s'avère que cette arrivée se faisait en simultané avec la crue du Nil. Du coup, même les Grecs, alors on remonte jusqu'au calendrier grec, et même les Grecs à l'époque définissaient le début de l'année avec la crue du Nil. Mais il va falloir attendre ce cher et vieux Jules César, à l'époque d'Astérix, qui se dit que tout ça quand même, ça fait un peu désordre. Trois calendriers, attendre une crue, qui ne vient jamais tout le temps au même moment, ça lui allait pas. Et donc en 46 avant Jésus-Christ, il va mettre l'ordre là-dedans. Et il va quitter le calendrier lunaire utilisé jusqu'à jadis pour passer dans un calendrier solaire. Ceci n'est pas un geste mineur, puisque le calendrier lunaire, on est dans un calendrier, une culture de l'énergie yin, si l'on peut l'appeler comme ça en restant dans une culture orientale, une culture plutôt féminine, matriarcale, et on passe dans un calendrier solaire, une culture plutôt yang, une culture masculine, plutôt patriarcale. Donc vous pouvez vous lire déjà entre les lignes que le changement, il est loin, loin d'être mineur. Au passage, Jules César décide de nommer le premier mois de l'année d'après le dieu Janus, d'où le mois de janvier. Et il décrétera que l'année commencera le 1er janvier. Sauf que le jour de l'an a une origine pagane et il existe de très nombreuses célébrations à peu près à cette époque, dont la plus importante dont je vous parlais déjà dans l'épisode antérieur, Saturnalia, qui était la fête du solstice d'hiver, qui a été ensuite accompagnée par la fête de la renaissance de la lumière qui avait lieu le 25 décembre. Donc il y avait de très nombreuses traditions et donc de très nombreuses célébrations, dont la plus importante, celle que je viens de citer. Ça faisait quand même un peu Capharnaüm. Et donc l'église arrive par là, et nous nous retrouvons avec le concile de Tours, en 567 après Jésus-Christ, où dans son canon 22, on va venir décrire toutes les horribles choses complètement burlesques et en dehors du dogme que ces mécréants de pagans avaient l'habitude de faire. Si l'on repart un peu plus loin, une dizaine d'années, ou une vingtaine d'années à peu près plus tard, le premier concile d'Auxerre, il en va de même. Ils entaillent des costards dans tous les sens à ces gens complètement éberlués. On pourra lire aussi Césarius d'Arles quelques années auparavant, qui parlera insurgé de déguisements d'animaux, dont en particulier des déguisements de cerfs, ce qu'ils appelaient le cervulum facere. S'habiller en cerf, ceci horripile l'Église. Alors, pour bien se faire comprendre, ce que l'on va faire, on va transformer tout ça en démon. Et voilà. Dès que l'on voit un mec cornu, on dira que c'est un démon. C'est tout. Aussi simple que ça. Vous avez là l'origine de l'iconographie du grand méchant de notre ère, le démon cornu. En fin de compte, ce sont ces pauvres pagans qui fêtaient l'arrivée de la nouvelle année, très en particulier l'arrivée du printemps, je vais m'expliquer dans 2 secondes, et donc ils s'habillaient en cerfs. Alors, au passage aussi, à la même époque, ces cultures étant rattachées à la nature, certaines d'entre elles, nombreuses, les Celtes entre autres, avaient des cultures rattachées aux éléments. On retrouve aussi la même chose en Chine, avec la culture des 5 éléments. Si vous connaissez les diagrammes de représentation des 5 éléments chinois, vous vous rendez compte qu'en fin de compte, il s'agit d'un cercle avec une étoile à 5 pointes à l'intérieur, qui décrivent tout simplement les interrelations qui existent entre les 5 éléments, à savoir le bois, le métal, le feu, la terre et l'eau. Ces interrelations, quand vous les connectez, ça vous font dessiner une étoile à 5 branches et à l'intérieur, vous faites un cercle pour relier les 5 éléments dans leur ordre de genèse. Et là, qu'est-ce que vous avez ? L'autre grand signe démoniaque ! Le pentagramme. Eh bien, c'est ainsi qu'est née cette iconographie à une époque où, en fin de compte, la seule chose que l'on faisait, c'était la fête. En fait, cette fête du jour de l'an était d'origine celtique et gauloise, entre autres. Alors, je reviens un peu chez nous pour raconter cette histoire. Elle se faisait en honneur à Cernunnos, qui était le dieu cerf, un animal qui perd ses bois en hiver et les récupère au printemps. Et ceci est particulièrement important quand Cernunnos est un dieu cerf parce qu'il incarne le cycle biologique de la nature. Le cerf perd ses bois en hiver et les récupère au printemps. En fin de compte, c'est la symbolique du cycle de vie et de mort, de germination et dépérissement, d'hiver et de printemps. Et en fin de compte, Cernunnos, si l'on remonte à ses origines, il était rattaché à la déesse mère. Et il était aussi représentant de la puissance masculine et de la fécondité. Ce que certains pourraient rattacher comme un culte au masculin et féminin sacré. Autre petite anecdote particulièrement intéressante, c'est qu'une représentation de Cernunnos a été trouvée dans des fouilles dans Notre-Dame de Paris, en 1711. Et je trouve ça particulièrement cocasse que, à la base même du plus grand centre spirituel de la chrétienté, on retrouve, ou l'un des plus grands, certains pourraient contester ce que je viens de dire, mais quand même l'un des plus grands, pour sûr le plus grand de France, on retrouve une représentation en honneur à Cernunnos. Alors, si on continue, on peut retrouver le sermon du Nouvel An de Saint-Augustin, où il parlait de pagans dissolus à la recherche de plaisir avec des chansons paillardes et leur théâtre démoniaque. Saint Jean de Chrysostome parlait de comédies ridicules, de danses toute la nuit, de célébrations, bien sûr encore une fois, démoniaques et d'invectives. Ils étaient tellement outrés qu'en 1445, la faculté théologique de Paris a écrit une lettre insurgée aux évêques de France pour condamner le jour des innocents. Il parlait de déguisements, de jeux, de boissons en excès, bref, des bacchanales dans tous les sens, où même les prêtres et les curés se donnaient à la fête et portaient des masques, des visages monstrueux. Ils dansaient habillés en femmes, mangeaient des poudings noirs sur l'autel pendant la messe, jouaient aux dés et humaient des fumées puantes émanant de vieilles semelles de chaussures. Je pense qu'aujourd'hui on appellerait ça un pétard, mais bon. Alors ils couraient aussi dans les églises, ils parcouraient la ville sur des charrues ridicules pour faire rire les gens avec des gestes indécents. Et peu chaste. Voilà un peu comment les choses commencent à basculer. Parce que, il faut le dire, ceci est un sacré foutoir. Et donc, il arrive le pape Grégoire XIII et il se dit, il va falloir mettre de l'ordre là-dedans. Et en 1582, il décide de mettre en place le calendrier grégorien qui est celui que nous utilisons encore aujourd'hui. Ainsi, on mettait de l'ordre et on définissait définitivement que le 1er janvier serait le début officiel de l'année. Car ils étaient trop nombreux à le fêter entre les 21 décembre, les 25, les débuts mars, les milieux janvier, on ne s'y retrouvait plus. Allez, on fait table rase, c'est l'église qui commande, on est en 1582, c'est le 1er janvier qui fera œuvre de début officiel de l'année. Mais dans tout ça, les Anglais ne font jamais rien comme les autres. Alors eux et toutes leurs colonies attendront 1752 pour officialiser le 1er janvier comme jour de l'an. Et avant ça, ils le faisaient le 25 mars, qui était le jour de l'Annonciation. Et je me marre, parce qu'en fin de compte, pour pouvoir après se mettre au diapason du reste de l'Europe, 1752 fut raccourci de 3 mois. Je n'aurais pas aimé avoir mon anniversaire dans l'un de ces 3 mois. Bref. Encore à ce jour, aujourd'hui, il existe des calendriers lunaires en cours. Alors d'un côté, nous avons le Rosh Hashanah des Juifs et le premier jour du Muharram des musulmans, qui sont célébrés en automne. Mais nous avons aussi un nouvel an particulièrement important, du moins pour cet épisode, qui est celui des Chinois. Et ne serait-ce que dans le nombre de personnes qui le fêtent complètement en décalé, 1 milliard de Chinois qui font la fête avec ce nouvel an lunaire qui a lieu pour fêter l'arrivée du printemps, c'est-à-dire qu'on reste dans la logique d'antan, hein, pré-chrétienne, il correspond précisément à la deuxième pleine lune après le solstice d'hiver. Saturnalia, vous vous rappelez ? Deuxième pleine lune après le solstice d'hiver. C'est-à-dire que en moyenne, il a lieu entre le 21 janvier et le 19 février tous les ans. Donc c'est une fête qui est mobile et change suivant le calendrier lunaire. Comme les Chinois ne font rien à moitié, ils font la fête pendant 1 mois. Aujourd'hui, c'est un peu plus accepté de faire la fête pendant 15 jours. Donc on s'est un peu occidentalisé en Chine aussi. Mais sinon, c'était la fête pendant 1 mois. Et c'est une tradition qui remonte au 14e siècle avant Jésus-Christ. Même si la Chine adopte le calendrier occidental en 1912, tous les ans, le pays fête le nouvel an chinois avec l'arrivée du printemps. D'ailleurs, je dirais entre parenthèses, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est extrêmement intéressant. Chaque année est associée à l'un des 12 animaux du zodiaque chinois. Donc, il y a un lien avec l'astrologie chinoise et les animaux ont des caractéristiques particulières qui sont ensuite rattachées à l'un des 5 éléments. Et en année yang ou année ying. Ce qui fait que quand vous combinez les caractéristiques de l'animal avec l'élément qui lui correspond, yin ou yang, vous allez déterminer déjà le profil de l'année énergétique dans laquelle vous allez être. Mais là, je ferme la parenthèse, surtout que nous parlerons du nouvel an chinois davantage un peu plus tard. Mais là, Avant de continuer, j'ai quand même envie de faire une parenthèse clin d'œil sur les jours de l'an, parce qu'il y a quand même des trucs vraiment poilants à découvrir. Car l'église d'antan, elle a beau eu se donner tout le mal du monde, la fête continue. Au Brésil, par exemple, on s'habille tout en blanc, parce que ça donne bonne chance. En Hollande, au contraire, on va manger des donuts. Alors, je me demandais quelle était l'origine des donuts. Moi, j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis. Ils ont une passion folle pour les donuts. Mais en fin de compte, en Hollande, on mange des donuts, car leur forme ronde représente la symbolique d'un cycle de vie complet d'année, de début à la fin. Maintenant, quand vous irez au McDo et que vous commanderez un donut, Dieu vous évite d'aller souvent au McDo. Quand vous irez là-bas ou ailleurs et que vous mangerez un donut, vous saurez que vous êtes en train de manger le symbole d'un cycle de vie complet et heureux d'une année allant du début à sa fin. En restant en Europe encore, nous avons les Espagnols, ma terre d'origine, qui, tous les 31 décembre à minuit, mangeront 12 raisins avec chaque coup de cloche de minuit, symbolisant chacun des mois de l'année qui vont venir. Et donc, s'ils arrivent à manger les 12 raisins sans s'étouffer, ça voudra dire qu'ils auront une année prospère. S'ils s'étouffent, peut-être qu'ils ne passeront même pas les premières minutes de l'année nouvelle. Ensuite, nous avons le Japon. Au Japon, pas de gros repas, tu sais, pentagruélique, gastronomique, la totale, où on va manger du foie gras. Non, pas du tout. On va manger des pâtes. De très longues pâtes, car elles symbolisent une longue vie prospère. Avec une condition, manger ces spaghettis d'un seul coup, sans les mordre au milieu, car si vous les mordez au milieu, malheur à vous, c'est comme s'étouffer avec un raisin en Espagne. Sinon, en Grèce, ils vont manger des gâteaux où ils vont cacher une pièce en or. Et celui qui aura la chance de trouver la pièce en or aura une année absolument extraordinaire. Nous avons une tradition très similaire avec les galettes de roi pendant l'épiphanie. Mais bon, ceci se passe en Grèce et c'est pour le jour de l'an. En Afrique du Sud, ils sont un peu plus bourrins, parce qu'ils jettent les vieux meubles par la fenêtre. Mais on parlera tout à l'heure de cette symbolique de jeter des vieux meubles par la fenêtre. Et donc, comme ils s'adonnent tellement avec cœur, qu'à un moment donné, la police a dû interdire sa tradition, parce qu'il y avait un paquet de gens qui se faisaient écraser dans la rue. Alors, t'en as un en bas qui fait la fête, « Ouais, nouvelle année, super !» Et boum, et il se prend un lit dans la tronche, parce que l'autre en haut, il attend à dire « Vive la nouvelle année, je balance les vieux meubles, vive le renouveau !» Bref, à côté de ça, nous avons l'URSS de l'époque, qui a remplacé Santa Claus, qui était d'origine religieuse, comme vous le savez depuis l'épisode antérieur. Et si vous ne le savez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et vous avez raté cet épisode. Je vous invite à vous abonner, car vraiment, nous aurons plein d'autres épisodes. Vous découvrirez des choses absolument extraordinaires que vous aurez du mal à trouver ailleurs. Et toujours pour réveiller votre potentiel dans une aventure personnelle de croissance et de découverte. Bref, le grand-père, Frost, a remplacé Santa Claus et les Russes, ils ont été bons, ils l'ont appelé l'esprit de l'hiver, pim pam poum, ils ont trouvé une solution laïque, ils ont remplacé comme ça le jour de Noël, ils l'ont déplacé de quelques jours et ils ont transformé le jour de l'an en un jour de Noël. Aux Philippines, les enfants ne croient pas au Père Noël. Par contre, eux, ils sautent à minuit sans s'arrêter parce qu'ils pensent qu'ils grandiront davantage l'année suivante. Et donc, une autre anecdote hyper intéressante, rigolote surtout, c'est qu'en Chine, tout le monde devient un an plus vieux le jour du nouvel an. Ça veut dire que le jour du nouvel an chinois, il y a un milliard d'anniversaires en même temps. Les mecs, c'est le pragmatisme total des Chinois. Ils vont te dire « bonne année » et bon anniversaire en même temps. Sauf que, il y a un petit couac. Si vous êtes né un 30 décembre, au 1er janvier, vous aurez 2 ans. Maintenant, on part aux États-Unis, à Times Square, où il y a une boule de lumière qui descend. C'est le deuxième plus grand événement du jour de l'an au monde. Il rassemble 1 million de personnes à Times Square aux États-Unis. En fin de compte, c'est une boule de lumière qui descend et qui a remplacé jadis, en 1942 et 1943, les feux d'artifice, car ils ont été interdits pour cause de la guerre mondiale. À Copacabana, ils se réunissent pour la même célébration, mais là, ils sont 2 milliards de personnes. Et comme les Espagnols de l'époque de Franco, il fallait pas qu'ils soient moins que les Américains, eh bien, ils ont fait exactement pareil. Qu'est-ce que j'ai rigolé quand j'ai découvert cette tradition américaine rattachée à la tradition espagnole. Parce que quand les 12 raisins de minuit vont être mangés, et je vous assure, c'est toute l'Espagne qui est avec ça, hein, toute l'Espagne devant la télé à minuit, on est devant la Puerta de Alcalá à Madrid, et on est en train de regarder l'horloge de la Puerta de Alcalá. Une chanson espagnole dit « ahí está viendo pasar el tiempo, la Puerta de Alcalá, mírala, 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 mírala. » Toute l'Espagne rivée sur cette horloge-là. Et quand arrivent les 12 coups de minuit, pom, tchou, tu manges un raisin, pom, tu manges un raisin. Mais juste avant les 12 coups de minuit, il y a les 4 quarts. Tan, 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 tan. Les 12 coups de minuit s'en suivent, pam, tu manges tes 12 raisins, et une fois que tu as fini de manger tes 12 raisins, tu as une boule de lumière qui descend exactement pareil qu'à Times Square. Eh oui! On avait le père Marshall qui était passé par là à l'époque de Franco, mais on n'allait pas être moins que les Américains et nous avons notre propre Times Square. Bon, on n'a pas 1 million de personnes, mais bien quelques bonnes grosses dizaines de milliers de personnes qui font la fête exactement de la même façon. D'ailleurs, c'est un sacré foutoir. Et si on parle de foutoir, je vais vous amener au Danemark. Car la tradition veut que l'on balance de la vaisselle, mais pas juste la déposer. Vous balancez la vaisselle, vous la défoncez à l'entrée des maisons. Et c'est pour attirer de nouveaux amis à la maison devant laquelle vous balancez la vaisselle. Voilà, les engueulades de couple au Danemark, elles ont un ton complètement différent. Voilà, sur le ton de l'amitié, on s'engueule là-bas. Je te balance l'assiette et catapoum ! Donc là, on est au Danemark. Si on part en Éthiopie, là, c'est un peu plus de foutoir, parce qu'ils ont 13 mois. Ils ont un calendrier de 13 mois et ils vivent encore en 2010. Je ne vous raconte pas le bazar pour les comptables. Mais bon, si on part en Corée du Nord, il fallait bien que notre cher Kim fasse les choses différemment. Mais le calendrier Juche, appelé Juche, lui, ne commence pas au 1er janvier. Il commence le jour de l'anniversaire de Kim Il-sung, qui était le fondateur de la Corée du Nord. Ensuite, est-ce que vous saviez qu'à l'époque de la recherche spatiale et des grandes découvertes avec le Space Shuttle et qu'il y avait la course aux étoiles avec la NASA, eh bien, jamais un Space Shuttle n'a volé un jour de l'an car les ordinateurs ne savaient pas gérer un changement d'année. D'ailleurs, une autre histoire moins rigolote, mais quand même, c'est comme une sorte de bêtisier, de bêtisier de la bêtise humaine. Parce que on avait, en 2010, il y avait un attentat suicide à la bombe qui était prévu en Russie et qui devait avoir lieu aux 12 coups de minuit. Et la bombe qu'allait porter cette terroriste, donc elle allait être déclenchée par SMS avec son téléphone. Sauf que, la dame, elle était chez elle, elle attendait les 12 coups de minuit. Elle reçoit un SMS de fin de bonne année d'une amie. Et en fait, elle se fait exploser dans son salon. Et voilà. Donc, son attentat n'arrive pas à terme. Et donc, c'est une sorte de bêtisier tristement rigolo. Mais pour rajouter un peu à toutes ces histoires bordéliques du jour de l'an, c'est ce que vous saviez qu'à Times Square, ils sont quand même 1 million. On a un gros, mais très gros problème. C'est qu'il n'y a pas de toilettes. Alors, imaginez-vous, avec 1 million de personnes, en ayant bu des tonnes de champagne, entouré de gens au milieu de la rue, comment faites-vous pour faire pipi? Eh bien, ils sont très nombreux à se promener en couche-culotte pour adultes. Et donc, pour ensuite donner un petit clin d'œil un peu moins... Ouais, quand même, il contribue au bordel aussi. C'est que quand la boule descend à Times Square, il lâche 2000 livres de confettis. Donc, ça fait à peu près une tonne de confettis. Mais au lieu de faire des confettis quelconques, chaque confetti est un désir qui a été émis et écrit par une vraie personne. Et tous ces désirs pleuvent sur les gens comme une belle symbolique. Mais celle que je retiens par-dessus toutes, pour bien finir l'année, et bien rendre hommage à un peuple qui a, hélas, lui aussi subi l'arrivée de notre culture occidentale et chrétienne, c'est le peuple de Hawaï, qui fêtait le nouvel an, ni plus ni moins que pendant 4 mois de l'année. Un tiers de l'année, il fêtait le nouvel an. Et ce que j'ai adoré découvrir, c'était que Hawaï, c'est une culture vraiment, si vous la découvrez, moi c'est une culture qui m'a passionné, parce que une très grande partie de ma carrière, je l'ai vécue dans une passion exacerbée pour le surf, son histoire, etc. J'ai voyagé de par le monde avec une planche de surf sur le bras. Et donc, la culture hawaïenne, c'est l'une des souches de la culture surf contemporaine. Et donc, elle m'a passionné. Mais ça, je ne le savais pas. Qu'il fêtait le jour de l'an pendant 4 mois. Et on connaît cette culture pour être une culture vraiment très proche de la nature, très proche du cœur. D'ailleurs, le Ho'oponopono, dont on parlera un petit peu tout à l'heure, vient aussi de la culture hawaïenne. Eh bien, pendant les 4 mois du nouvel an, il était interdit de faire la guerre, il était interdit de travailler, et le temps était dédié à passer son temps à danser, à fêter, et tout simplement passer du bon temps. Où sont passés les bons vieux temps ? Mais maintenant, descendons jusqu'à quelque chose de plus concret. Et parlons spécifiquement des résolutions pour la nouvelle année. Car nous sommes ici face à une tradition qui remonte aussi à l'ancienne Babylone. Vous rappelez au tout début du podcast, quand je vous parlais des tablettes qui ont été trouvées dans des fouilles, etc., etc., qui dataient de moins 3000 ans jusqu'à moins 4000 ans si on restait avec les Chinois. Mais bon, Babylone, revenons, moins 3000 ans, on faisait déjà des résolutions de fin d'année. Il s'agissait de promesses pour commencer l'année comme il faut, pour avoir l'approbation des dieux. Petit clin d'œil d'ailleurs, aujourd'hui, est-ce que vous saviez que la plus commune des résolutions pour la nouvelle année, c'est de perdre du poids et que dans quelques heures, plus de 60% des Américains, bon ils sont bien lotis eux pour avoir ce problème, mais plus de 60% des Américains à moitié sous diront « cette année, je perds 15 kilos ». Mais si nous voulons rester dans les résolutions et comprendre ce qu'elles nous amènent, utilisons le nouvel an chinois pour mieux comprendre leur intérêt et en quoi ce simple exercice de résolution cache quelque chose de beaucoup plus puissant qui est très proche de nos cycles énergétiques et de nos cycles naturels de transformation et de renaissance de notre énergie. Comme je vous disais tout à l'heure, le Nouvel An chinois est une fête du retour du printemps. Et on retrouve exactement la même logique dans de très nombreuses traditions ancestrales. Donc aujourd'hui, je vais prendre le Nouvel An chinois comme base, car moi j'ai beaucoup étudié et beaucoup travaillé les cultures orientales, notamment chinoises, taoïstes, confucianistes, etc. Donc c'est celle que je connais le mieux, donc j'utilise ça pour illustrer. Mais dès le moment où vous prenez comme postulat de départ que nous sommes en train de parler du retour du printemps, vous pouvez rattacher ça à de nombreuses traditions ancestrales, paganes, mais aussi chamanique. Et parlons justement du chamanisme, car l'arrivée du printemps, entre autres, est fêtée avec beaucoup de couleurs et en faisant beaucoup de bruit, Car le but est d'espanter les mauvais esprits qui se sont installés dans l'obscurité de l'hiver. Nous avons appris cela, ni plus ni moins, avec ce cher Gorka Etchari, qui nous a accompagnés pendant notre série d'épisodes sur la découverte du chamanisme et où nous parlions dans l'épisode 26 de la redécouverte du chamanisme basque. Après 25 ans d'études, il nous racontait justement comment on chassait les esprits avec l'arrivée du printemps. Vous retrouvez exactement la même façon de procéder dans toutes les cultures chamaniques du monde. Si vous n'avez pas écouté cet épisode ou la série d'épisodes sur le chamanisme, comme tout à l'heure peut-être que vous aviez raté l'épisode sur Noël, abonnez-vous à cette chaîne. Je vous assure, vous passerez un bon moment en notre compagnie et vous découvrirez des choses que vous aurez du mal à trouver ailleurs. Surtout, gratuitement. Revenons à la Chine maintenant. Il y avait un lion qui s'appelait Niang. C'était un lion qui était méchant et qui faisait peur aux villageois, qui rasait les villages. Et un jour, un vieux monsieur a demandé à une dame du village de l'héberger pour la nuit. Et lui a dit, « S'il vous plaît, hébergez-moi. Je n'ai pas où pour dormir. Mais si vous m'hébergez, sachez que le lion Niang ne reviendra plus jamais. Que s'il vient dans le village alors que je dors ici, il commettra la plus grande de ses erreurs et plus jamais il ne viendra vous terroriser. » Alors la mamie, elle est là, elle voit le bonhomme là, un peu habillé, un peu empouilleux, il dit « Non mais celui-là, il veut juste s'incruster à la maison, que je lui donne à manger. » Elle regarde un peu défiante et lui dit « Écoutez, faites-moi confiance, car j'ai en mon pouvoir 3 armes qui vont faire fuir le lion ancien. » Niang, pardon. Bon, à la fin, elle lui fait confiance. Le lion arrive et là, le papy sort une bannière rouge. Et le lion, il a peur, il colle des bannières dans l'entrée de la porte. Et quand le lion, il essaye de s'approcher de ces bannières qu'il n'aime pas, il est là, ça lui grince aux yeux. Il a quand même le courage de s'approcher. Le petit vieux, il sort, il allume une torche. Le lion fait un saut et là, il allume des pétards et il commence à exploser dans tous les sens. Et le lion de Niang, terrorisé, partit et ne revint plus jamais. C'est depuis cette époque-là que la couleur rouge, on la retrouve dans beaucoup de traditions rattachées à l'arrivée du printemps. Car les 3 armes du papy étaient la couleur rouge, les pétards qui faisaient du bruit, c'était le bruit et le feu. Et c'était ces 3 éléments qui étaient les garants pour espanter le méchant lion, c'est-à-dire le symbole des esprits maléfiques des cultures chamaniques ou le symbole, tout simplement, vous direz un médecin chinois, des énergies viciées, stagnantes, qui se sont accumulées ou qui ont pris racine pendant l'hiver, voire même pendant les mauvaises habitudes de l'année. Ainsi, quand on recule un petit peu et on s'intéresse à la logique cyclique des énergies yin et yang, on sait que l'hiver est la période où l'énergie yin est à son apogée. C'est une énergie intérieure. La vie est intériorisée. La sève des arbres repart jusqu'aux racines. Les feuilles sont tombées. Il n'y a pas d'apparat. Tout devient un voyage intérieur au plus profond de soi. C'est une période d'hibernation. Les ours, littéralement, y dorment. La période d'hibernation chez les êtres humains est symbolique, car c'est une période qui est très propice à la contemplation. Les énergies sont intériorisées, donc ça favorise d'aller chercher dans les zones d'ombre, car le yin est aussi représentant de l'ombre, mais pas l'ombre démoniaque, juste l'obscurité de l'ignorance, l'obscurité de tout ce qui est profond et enfoui. Et c'est justement pour ça, parce que nous sommes dans cette phase d'intériorité, que les forces sont toutes repliées et qu'il n'est pas bon de trop forcer en hiver. N'importe quel médecin chinois ou acupuncteur vous disait « Ah, ne tirez pas sur la corde en hiver. » C'est une période de repli, de regard intérieur. Donc, là où ça devient intéressant pour nous, c'est que c'est un moment de bilan. C'est le moment de faire le bilan de l'année passée. C'est le moment le plus propice en énergétique pour faire ce travail-là. On va analyser ses succès, ses échecs, ses révélations et les leçons que l'on retire pour faire un bilan et ainsi pouvoir faire la paix avec le passé. Laisser derrière les lourdeurs pour s'alléger de ce passé et ainsi transmuter et transformer pour renaître. En fin de compte, nous sommes là dans une symbolique parfaite du phénix. On brûle l'ancien pour renaître de ses cendres. Car les cendres est le symbole de la matière essentielle, c'est-à-dire ce qui reste transformé en leçon de vie. Donc, pour résumer, l'hiver, quand il arrive à son comble, nous sommes là au 21 décembre 2021, on va commencer à toucher le fond de cette zone d'intériorité. Le moment le plus propice pour vous nettoyer en profondeur. Pourquoi ? Pour donner la bienvenue au printemps. Ainsi, accueillir la reprise de la vie. Car tout est cyclique. Le yin est remplacé par le yang est remplacé par le yin dans un cycle infini d'aller et retour, de flux et reflux. Donc, le printemps est le retour du yang, le retour de l'action, le retour de la lumière. C'est un nouveau départ, une nouvelle patate, on est à fond. Un retour de la joie, de la lumière intérieure après la nuit noire de l'âme hivernale. C'est un retour à la vie extérieure. Et après le repli contemplatif, c'est la fête. Et c'est pourquoi qu'en Chine, quand on fête le jour de l'an, passage vers le printemps, on fait plein de nettoyage, car il s'agit de symboles actifs. On va nettoyer la maison, on va se faire une nouvelle coupe, on va s'acheter de nouveaux vêtements, on va payer toutes ses dettes pour commencer sur de nouveaux pieds. Bref, on est en train d'amener du renouveau, de faire circuler les énergies. Avec le bruit, les cultures chamaniques faisait circuler les énergies et les mauvaises énergies. Mais tout ceci descend aussi dans la matière et on parle bien de nettoyage de printemps. Eh bien, en fin de compte, le nettoyage de printemps, on peut le faire dans son garage, dans sa maison ou dans sa chambre, comme on peut le faire à l'intérieur de soi. Et c'est là que commencent à entrer en jeu les résolutions. Pour entamer la nouvelle année, et c'est là que commencent à entrer en jeu les résolutions. Vous l'aurez compris, entamer la nouvelle année, c'est une période de bilan. En fait, vous allez faire le tour du cadran. Les 12 mois écoulés, avec le bon, avec de la gratitude, vous allez remercier tout ce qui a été bon. Des études en psychologie positive ont prouvé que exprimer la gratitude et le faire de façon proactive, encore plus, rend plus heureux. C'est-à-dire que si vous faites le travail de gratitude par rapport à tout ce qui a été bon pour vous et qu'en plus, vous vous donnez l'effort d'exprimer cette gratitude aux personnes qui étaient concernées par le fait que quelque chose de bon vous soit arrivé, si vous leur exprimez verbalement, c'est des pics d'augmentation de votre bonheur de jusqu'à 20%, ce qui n'est pas rien quand même, surtout dans les temps qui courent. Mais on fait aussi le bilan du moins bon, avec les apprentissages, les transformations et très important, le pardon. On a parlé tout à l'heure de la culture hawaïenne. S'il y a un cadeau extraordinaire que nous laisse cette culture tout aussi extraordinaire, c'est le rituel de l'Oponopono. Merci, pardon, je t'aime. Un rituel simple, mais quand vous commencez à rentrer dans ce qu'il veut dire réellement et la mise en application concrète et pratique, vous vous rendez compte qu'il va extrêmement loin. Ainsi, une fois que vous avez fait le bilan du bon et du moins bon, il vous reste toutes les premières résolutions qui découlent des conclusions de tout ce que vous avez réussi à vous dire et à découvrir dans cette phase initiale. Mais vient ensuite la phase des autres résolutions. Car après avoir fait le bilan de votre nettoyage de printemps, il vous reste maintenant à accueillir le vivant, le renouveau, l'accueil de la vie. Nouvelle énergie, c'est la période de création où vous allez canaliser cette nouvelle force qui vient avec le printemps. Et là, vous allez préparer un nouveau terreau fertile pour vos projets, vos idées, vos envies, vos objectifs, vos rêves. Bref, dit autrement avec le jargon de cette chaîne, vous allez créer votre réalité. Et là, vous me voyez venir. Car si vous êtes fidèle à cette chaîne, vous savez que nous avons fait toute une série d'épisodes, une podcast masterclass série sur créer sa réalité entre les épisodes 29 et 34 que je vous invite à voir. Et à écouter plutôt qu'à voir. Et si vous ne saviez pas qu'ils étaient là, c'est que vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Alors abonnez-vous. Et si vous écoutez cet épisode et vous aimez ce que vous écoutez, si nous passons un bon moment ensemble, si vous pensez qu'il en ressort des choses intéressantes de cet épisode et des épisodes antérieurs, s'il vous plaît, rendez-nous le plus grand service. Parlez-en autour de vous. Car nous misons sur le long terme. Nous voulons donner des grandes quantités industrielles de contenu gratuit, de très grandes quantités, que nous voulons, de très grande qualité, pardon, en quantité et en qualité, et que nous voulons divulguer au plus grand nombre. Et pour cela, on mise très fortement sur le bouche-à-oreille. Ce sera notre meilleure caution de succès. C'est lent, ça va contre toutes les prédispositions du marketing contemporain, mais nous, on veut faire les choses bien comme il faut et on sait que notre plus grand garant de succès dans le long terme sera le bouche à oreille, car c'est la garantie d'un futur solide. Car si vous aimez, vous allez donner rendez-vous à un ou une amie et vous allez l'inviter à découvrir notre chaîne pour aller au cœur de l'humain et de son potentiel. Une alchimie de l'éveil, la chaîne pour grandir en conscience. Alors, vous l'aurez compris, vous avez toute une série de 5 épisodes du 29 au 34 sur créer sa réalité avec pléthore de directives pour vous aider à mettre en application le meilleur pour l'année qui va arriver. On peut difficilement faire mieux pour vivre une année de rêve. Vous avez absolument tout entre vos mains. Mais attention, tout ce que je viens de vous raconter ne sert absolument à rien si vous ne passez pas à l'action. C'est bien les résolutions, mais l'immense majorité, la vie reprend son cours début janvier et on les a oubliés bien avant fin janvier. Tout est dans le passage à l'action. Sinon, vous serez comme la mamie de la chanson. Elle vit sa vie... Elle vit sa vie par procuration, devant le poste de télévision. Je ne suis pas un très bon chanteur, mais vous voyez de quoi je parle. Donc attention, agissez. Les idées et les prédispositions, aussi bonnes soient-elles, ne valent rien si elles ne sont pas accompagnées d'action. Car seules... leur exécution compte. Et là, je vais faire une petite parenthèse, le 1er janvier nous rend un énorme service. Et là, on revient à ce cher Grégoire XIII avec son calendrier grégorien et ceci et cela. Écoutez, il nous rend service pourquoi ? Car le 1er janvier, il est en plein milieu de l'hiver énergétique. Et que le nouvel an énergétique, c'est-à-dire l'arrivée du printemps, commence, cette année en particulier, le 22 janvier 2023. Ça veut dire que vous aurez fêté les 12 coups de minuit, qu'il vous restera encore 22 jours pour vous préparer, pour faire le bilan, pour poser les jalons, pour planter les graines, pour visualiser, pour créer et pour faire votre vision board. Toutes ces choses que vous aurez pu apprendre pendant les 22 jours grâce à notre masterclass podcast série sur créer sa réalité. Je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas faire mieux pour se préparer à vivre une année de rêve. Alors, qu'entendons-nous ? On va reprendre le flambeau des peuples d'antan et nous allons fêter le retour de la vie avec joie et entrain. Nous allons entamer un chemin contemplatif où c'est au fond de nous que nous allons trouver les réponses que nous cherchions à l'extérieur. C'est une aventure en conscience, une aventure consciente pour devenir ensemble les architectes de notre lendemain, aux couleurs de notre joie, de notre cœur et de nos rêves. Car tout est possible pour les cœurs qui savent rêver. Quoi qu'en disent les médias, 2023 sera notre année. Je vous parle à quelques heures de la nouvelle année 2023. Ceci est notre petit moment, notre petit acte symbolique. Nous partageons ce moment ensemble, ça me fait très chaud au cœur, car nous avons de très beaux projets pour 2023 et ce sera notre année. À vous, à nous, car nous allons la vivre ensemble. Comme le 24 décembre, j'ai fait cet épisode avec un acte symbolique pour le faire au fond du cœur avec vous. Donc c'est de ce même endroit du fond du cœur que je vous dis que je vous aime. Et je vous remercie de nous donner l'opportunité de vivre une vie pleine de sens. Ensemble, nous allons vivre et faire de très belles choses en 2023. Et au Pays Basque, culture chamanique et terre de mes racines, on vous dirait Urte Berrion.
Natraya, namo arya jana, sagara birochana, biharanjaya, tathagataya, arhate, samyak sambuddhaya, namo sarva tathagatembhyo, arhatembhyo, samyak sambuddhibhyo, namo arya avalokite. Swaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Tatyatha Om Darandara Diri Diri Duru Duru Iti Viti Chale Chale Prachale Prachale Kusumavare Ili mili jitin jwala mapanaye soha Natraya, namo arya jana, sagara birochana, biharanjaya, tathagataya, arhate, samyak sambuddhaya, namo sarva tathagatembhyo, arhatembhyo, samyak sambuddhibhyo, namo arya avalokite. Swaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Tatyatha Om Darandara Diri Diri Duru Duru Iti Viti Chale Chale Prachale Prachale Kusumavare Ili mili jitin jwala mapanaye soha
Ce morceau, comme la semaine dernière, est tout particulièrement choisi pour faire un petit clin d'œil à Chögyal Rinpoche, un Rinpoche d'une trentaine d'années que je porte particulièrement dans mon cœur et qui a composé ce morceau en honneur de Thich Nhat Hanh. Une belle façon de dire au revoir à l'année, une belle façon de vous souhaiter tout le meilleur pour 2023.